franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Aujourd'hui, le métier de pape. Après New York, donc, Rome, avec Bernard Lecomte. Bonjour Bernard Lecomte.
Bonjour Jean Lebrun.
Historiographe reconnu de Jean-Paul II, qui peu à peu remonte le temps et devient historien de l'Église. Vous venez de publier le roman des papes aux éditions du Rocher, qui porte sur les papes du 19e et du 20e siècle. On peut utiliser à bon escient ce mot de métier à propos du pape ?
Ben, y en a un qui l'a utilisé, c'est justement Jean-Paul II qui, quand il a été élu, le jour même, il n'avait pas fait une bénédiction et il avait dit « on vient de me reprendre, on est en train de m'apprendre le métier de pape ».
Alors apprenons un peu le latin. « Habebus papam ». La formule se perd dans la nuit des temps, elle a été prononcée à chaque élection par le premier cardinal diacre à l'issue du conclave qui réunit les cardinaux électeurs. Elle scelle le contrat, je ne sais pas si le mot est utilisable, que passe l'Église catholique avec le nouveau successeur de Pierre. Alors contrat, le mot est aussi impropre que celui de métier, ou aussi moderne, parce que c'est un métier impossible. Il faut prolonger une tradition qui est vieille de 2 millénaires, s'adapter à un monde qu'on n'aime pas nécessairement, porter sur ses épaules le salut des peuples, alors qu'on n'est pas sûr d'assurer le sien, produire des textes peut-être infaillibles, alors qu'on est soi-même incertain, bref, se dire expert en humanité, alors qu'on vit dans la solitude. Habemus Papam, c'est aussi le titre du film de Nanni Moretti, qui, après avoir rencontré un grand succès en Italie, vient de sortir en France. Les rares biographies filmées des grands papes du XXe siècle ont toutes été ratées. Nanni Moretti a préféré imaginer un pontife éphémère qui n'est pas sans rappeler celui de 1978, Jean-Paul Ier. Alors on commence par le commencement, la réunion du conclave, les cardinaux chantent des litanies, les bulletins sont égrenés et puis va venir l'annonce.
Melville.
La fumée est blanche.
Dear brothers and sisters, Habemus Papam, ac reverendissimum.
Melville, c'est Michel Piccoli, on reconnaît son cri. Mais pourquoi m'ont-ils choisi moi, disait Jean-Paul Ier.
Oui, la plupart des papes se sont dit ça. Le film, évidemment, est un événement. Il décrit une situation romanesque. Mais en réalité, le lot de presque tous les papes est d'avoir, alors peut-être pas pousser le cri que pousse Michel Piccoli dans le film, mais en tout cas d'être complètement abattu par cette nouvelle. Pour une raison très simple, c'est qu'à part quelques exceptions, la plupart des papes ne s'attendaient pas à être élus par le conclave. Il y a deux raisons à ça. La première raison, vous vous rappelez, Jean Lebrun, qu'au XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelait le droit d'exclusive. Le droit d'exclusive, c'était une tradition qui donnait aux chefs des grands États catholiques, donc l'empereur d'Autriche, le roi du Portugal, etc., le droit de dire « non, celui-là, on n'en veut pas ». Or, la plupart des candidats, des grands papabili, ont été barrés comme ça, par un souverain qui ne voulait pas de celui-là. Évidemment, on s'est replié sur le numéro 2 ou le 3 ou le 4 de la liste. Et c'est souvent un outsider qui a été élu.
Alors, ce droit d'exclusive, il cesse en 1914, parce que l'élection a lieu au moment où commence la guerre et il ne peut pas jouer. Et une fois que le droit d'exclusive n'existe pas, il y a d'autres fractures qui se font jour et qui font que n'est pas élu nécessairement le favori.
Non, là encore, pour une raison, disons, politique cette fois, c'est que depuis Léon XIII et le début du XXe siècle, l'Église, et notamment ses dirigeants, sont partagés entre plutôt modernistes et plutôt antimodernistes. Disons, plutôt progressistes et plutôt conservateurs, pour faire court.
Vous pouvez le dire en italien, parce qu'on peut parler italien en même temps que latin.
Alors, en italien, c'est les zelanti et les politicanti. Voilà. Mais il y a toujours un candidat plus réformateur et un candidat plus conservateur. Mais évidemment, quand ces deux candidats finissent par rallier tous les suffrages, on a peur d'une chose, c'est que l'Église se casse en deux. C'est que l'on élise le chef d'une fraction de l'Église. Et c'est pour pour ça qu'à chaque fois ou presque, on va chercher un troisième larron. Et ce troisième larron, en général, il ne s'y attend pas du tout, parce qu'il n'est pas, en effet, parmi les principaux papabili.
Et ça c'est... donne le pape Piccoli. Mais il y a quand même des successeurs naturels. Le pape Pacelli, le pape Montini, on savait.
Oui, ce sont
presque les... à coup sûr qu'il serait élu.
Voilà, ce sont les deux exceptions. Pacelli, c'est en 1939, la guerre menace. C'est un très grand diplomate. Il a une très grande autorité. Il est le secrétaire d'État sortant. Et tout le monde, en effet, s'attend à ce que Pacelli devienne le pape.
Ça le va secrétaire devenir... d'État, c'est un peu le premier ministre.
C'est ça, oui. C'est même oh, plus que ça. Parce que quand le pape est très malade à la fin de sa vie, c'est quasiment le vice-pape, comme on a dit même parfois. Pacelli va devenir Pie XII. Et en effet, ça n'est une surprise pour personne. Et puis alors, en 1963, on est en plein Concile Vatican II. Jean XXIII, celui qui a lancé le Concile, meurt. Et tout le monde s'attend en effet à ce que le cardinal Montini soit le successeur. Pourquoi ? Parce que Montini porte déjà sur ses épaules le Concile. C'est lui qui a la maîtrise de cette extraordinaire réunion de 2500 évêques. Et donc Montini, là encore, devient Paul VI et ça n'étonne personne.
Alors le son qu'on va entendre n'est pas issu du cinéma, mais des archives de Radio France, il y avait au moment de l'élection de 1963, Montini va devenir Paul VI, un expert ecclésiastique, Monseigneur Noirot, aux côtés de Michel Enfrol, journaliste maison. Il meublait le temps pendant que paradaient les militaires italiens au Vatican.
Ah, voilà, c'est la musique maintenant. Je pense que nos auditeurs peuvent l'entendre.
J'espère que les micros d'ambiance qui se trouvent sur la place Saint-Pierre fonctionnent. En tout cas, peut-être qu'en ouvrant la porte de notre guérite, de notre petit studio d'un mètre sur 80 cm, nous arriverons à l'entendre, à la faire entendre quelque peu.
Est-ce que c'est, Monseigneur, est-ce que c'est l'hymne pontifical de Gounod, non ?
Non, pas du tout. Non, c'est une musique italienne. Je ne sais pas quel est l'air qu'ils sont en train de jouer, mais ça n'a absolument rien de pontifical.
Et c'est très italien, d'ailleurs.
Voici un détachement. Il doit appartenir à l'arme d'élite qui a nom en Italie, Carabinieri.
Ah, il y a plusieurs régiments de différentes armes qui vont venir.
Il y a notre spécialiste italien, Michel Enfrol, qui sait tous les noms des régiments qu'il va pouvoir nous décrire.
Non, simplement, je disais tout à l'heure que d'après l'uniforme que porte la fanfare qui prend place en ce moment sur la place Saint-Pierre, je crois reconnaître un détachement de carabiniers. En revanche, et les suivis d'élèves officiers certainement qui avancent sabre au clair, précédés par un lieutenant ou un capitaine.
Vous pourriez croire que nous sommes à un défilé du 14 juillet. Il n'en est rien, c'est l'élection d'un pape, mais elle prend une coloration un peu différente qu'elle aurait en France, par exemple en Italie où on aime bien les parades, où on aime bien les défilés.
Oui, puis la coloration en 1963 n'est pas celle de la fin du 19e siècle où pesait encore la question romaine. C'est quand même assez étonnant de voir cet hommage des militaires italiens qui saluent le pape alors que le pape et l'État italien ont été en guerre longtemps.
Oui, il faut dire que pendant tout le siècle qui précède exactement cette élection de 1963, il s'en est passé des choses. Il y a un siècle avant, on est au moment où, on l'a déjà oublié un peu aujourd'hui, mais où le pape était roi. Le pape était chef d'un État monarchique, c'était les États pontificaux, dont Rome était la capitale. Il avait des ministres, une armée, une administration.
Légèrement archaïque, mais il était chef temporel.
Oui, mais vous savez, un homme comme Pie IX avait commencé son pontificat par des réformes civiles, en disant, oui, il faut changer un petit peu les choses.
Oui, mais en 70, il s'oppose à l'unité italienne. Il se considère, à partir du moment où celle-ci se réalise et où le roi d'Italie s'installe au Quirinal, son ancien palais, comme prisonnier.
Oui, alors vous dites qu'il s'oppose. C'est pas tellement qu'il s'oppose, c'est que c'est incompatible. C'est-à-dire que l'unité italienne se fait au détriment obligé du pape et de sa capitale, Rome, puisqu'on n'imagine pas que le nouvel État constitué, qui est une monarchie encore à l'époque, l'Italie n'est pas sa capitale à Rome. C'est impossible. Donc, en 1870, lorsque les soldats français lâchent un petit peu le souverain pontife, il faut dire qu'ils sont très occupés à Sedan à ce moment-là, avec un empereur en fâcheuse posture, eh bien, le pape n'a plus d'armée pour le défendre, d'armée, de vraie armée, c'est-à-dire les soldats de l'État français, de l'Empire. Et donc, il se retrouve pratiquement tout seul avec une poignée de soldats à défendre. Il ne défend pas longtemps, hein, Rome. Il se déclare prisonnier du Vatican. Il n'a plus d'État. il n'a plus de territoire. Et pendant 60 ans, on aura un pape comme ça, un petit peu au-delà de tous les critères habituels de la politique ou de la diplomatie, un pape qui sera prisonnier au Vatican. Alors, ce pape, ça va être Pie IX, donc c'est à lui qu'arrive cette fâcheuse aventure. Après, il y a Léon XIII, qui va rester très longtemps aussi. Ensuite, il y a Pie X, et ça n'est que sous Pie XI, après la guerre, en 1929, qui va traiter directement avec Mussolini. Enfin Mussolini vint. Alors, il faut dire que, soyons clairs, Mussolini savait très bien qu'il n'aura jamais de vrai pouvoir en Italie s'il a les catholiques contre lui. Donc Mussolini, qui est un cynique absolu et un réaliste aussi à sa façon, va négocier directement avec le pape pour, en effet, donner au pape ce qu'il demande depuis 60 ans, c'est-à-dire un territoire, même fictif, même virtuel, ce territoire qui fait 44 hectares, mais qui donne au moins au pape la faculté de ne pas voir son sort dépendre d'une majorité politicienne italienne.
Mussolini voulait fasciser l'Église, le pape voulait rétablir une Italie catholique. C'est peut-être le pape qui a le mieux réussi, parce que à partir de ce moment-là, la papauté s'engage dans la vie politique italienne jusqu'à peser d'un poids très lourd.
Oui, mais vous savez, ces deux phénomènes ne sont pas tout à fait confondus. Le phénomène de la politisation de l'Église, il est dû à un pape précédent qui était Léon XIII et qui a été le premier à inventer une théologie des rapports entre la religion et l'État. Est-ce qu'on peut faire de la politique, du syndicalisme quand on est chrétien, etc. Tout ça, c'est nouveau. Et en effet, les accords du Latran, en 1929, qui donc règlent enfin cette question romaine, coïncide avec l'entrée en politique de tous ces catholiques qu'on a vus finalement pendant la guerre 14 aussi patriotes que les autres. Il s'est passé ça d'ailleurs dans la plupart des pays européens. On a vu que finalement les catholiques donnaient leur sang comme les autres, allaient aux tranchées comme les autres. C'est un phénomène qu'on a connu nous aussi en France.
Et parmi eux, le papa de Paul VI.
Et parmi eux,
Monsieur Montigny.
Voilà, le Monsieur Montigny qui était un homme politique, un militant démocrate chrétien des toutes premières heures de la démocratie chrétienne. Et ce militant va évidemment inculquer à son fils les bases de la politique. On va avoir dans le personnage du pape Paul VI le premier pape vraiment politique, j'allais dire politicien, celui qui connaît toutes les règles de la vie politique italienne.
Paul VI, largement inspirateur de la vie politique italienne pendant son pontificat et qui règne sur le petit état symbolique du Vatican. Il va supprimer la garde noble, il va supprimer la garde palatine, garder un peu la gendarmerie et puis surtout la garde suisse. Reportage pendant son règne, Jean Neufcel, 1961.
Allô, Paris ? Ici, la cité du Vatican. L'armée du pape a renouvelé à son souverain son serment de fidélité. Les recrues de la garde suisse, qui sont enrôlées dans les cantons catholiques pour le service du pape, ont été admis à jurer solennellement de servir loyalement et jusqu'à l'effusion du sang, s'il le faut, le souverain pontife. Nous sommes au cœur du Vatican, dans une cour dallée de marbre, la garde au complet, 65 hommes, est rangée au garde-à-vous. Le soleil brille sur les cuirasses éclatantes, les pointes des hallebardes étincellent, les plumes rouges flottent au sommet des haumes. Ils ont posé leur main gauche sur un large drapeau de brocart, rouge, bleu et jaune, orné d'armes papales. La main droite est levée en l'air, les trois doigts tendus, les deux autres repliés pour manifester ainsi leur foi et prendre pour témoin de leur serment la très sainte Trinité elle-même.
Je jure de servir avec fidélité, loyauté et dignité sa sainteté le pape régnant Jean XXIII et ses successeurs légitimes et de sacrifier au besoin ma vie pour leur défense. Je fais le serment d'observer tous ceux que l'honneur de mon état exige de moi.
Thank you.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Puisqu'on est dans le magasin de curiosités du Vatican, après la visite aux gardes suisses, c'était un extrait de l'hymne pontifical tel que l'avait voulu Pinhoff, qu'il avait commandé à un compositeur viennois, on l'a remarqué, le style autrichien en 1857. Mais parlons plutôt des structures très très importantes, très fortes, qui ont une influence mondiale. Les dicastères de la Curie, ils sont plus d'une dizaine maintenant, ce sont autant de ministères. Alors selon les papes, vous racontez ça dans votre roman des papes, Bernard Lecomte, aux éditions du Rocher, il y a soit l'exercice autoritaire et personnalisé, soit la délégation de pouvoir.
Oui, il y a les deux exemples absolument extraordinaires, c'est Pie XII et Jean-Paul II. Pie XII, qui est un pape autocratique, qui gouverne seul lorsque son secrétaire d'État, c'est-à-dire son premier ministre, meurt à la fin de la guerre, il ne le remplace pas. Il dit lui-même d'ailleurs une fois, je ne veux pas de ministre, je veux des exécutants. Et Pie XII, jusqu'à sa mort en 1958, va gouverner l'Église seul, dans une réelle solitude, une solitude physique même. Alors que Jean-Paul II, le Polonais, quand il est élu en 1978, comprend tout de suite qu'il n'est pas de ce sérail-là, que la Curie, c'est pas son truc, et de peur d'être mangé par les structures de la Curie romaine, il délègue quasiment tout son pouvoir à son secrétaire d'État, qui est d'abord le français Villot, puis ensuite Casaroli. Casaroli qu'on va appeler très souvent le vice-pape, car c'est Casaroli, en effet, qui avait 90% des pouvoirs du pape. Jean-Paul II avait dit, moi, je donne l'indication, je suis le pape, je m'occupe des choses sérieuses, et il va, en effet, transporter le gouvernement de l'Église aux quatre coins du monde. Vous vous rappelez ces incroyables voyages de Jean-Paul II, et c'est là que Jean-Paul II aura ses formules, ses idées, ses initiatives, etc.
Dans le modèle ancien, vous citez Pie XII, mais il y a aussi Pie XI, vous savez ce que disait, vous le citez, un des collaborateurs de Pie XI. J'ai attendu un peu votre sainteté avant de vous donner les dossiers parce que je voulais attendre d'entendre plusieurs sons de cloche.
Et Pie XI répond, il n'y a qu'une cloche à Rome, c'est moi.
Oui, mais alors la rançon de cela, c'est la solitude.
Lors la capitale de l'Italie, Rome la ville éternelle. Dors au cœur de Rome le Vatican, cette succursale du ciel. Dorment les ministres et les trésors, dorment les Jésus de bois. Une seule fenêtre est allumée, un seul homme ne dort pas. C'est le grand vieillard en robe blanche, obsédé par l'insomnie. Le vicaire du Christ au cœur qui flanche, qui se traîne et sort du lit. Demandant la force qui lui manque à son chapelet d'ivoire. Le vieux pape tente une sortie dans la nuit des grands couloirs.
Tiens, Saint-Pierre, je rends les clés. Vu qu'elle n'ouvre plus de porte, mais à coup à dominer. Nous avons trahi chaque jeunesse et tous nos enfants ont déserté la table.
C'est Herbert Pagani. Nous sommes dans les années 70, la fameuse comédie musicale Mégalopolis, c'est un petit peu la même thématique qu'on retrouve dans le film de Nanni Moretti qui vient de sortir sur les écrans, Habemus Papam, la solitude du pape et la nécessité peut-être qu'il soit pauvre pour être entendu, solitaire pour être compris.
Alors, la pauvreté est une nouveauté au Vatican, si j'ose dire. C'est-à-dire que les papes, traditionnellement, viennent plutôt de familles aristocratiques ou de la noblesse romaine. Le premier pape pauvre, c'est Pie X. Il est élu en 1903. Il y avait à l'époque un grand personnage qui s'appelait Rompola, qui a été barré justement par l'empereur d'Autriche et le roi d'Espagne, qui ont dit non, c'est le candidat des Français, on n'en veut pas. Et les cardinaux ont donc élu le patriarche de Venise, qui s'appelait Sarto, et qui était le premier pape pauvre, né dans une ferme de la région de Venise. Et celui-là, en effet, d'ailleurs, vous savez que c'est le seul pape saint du XXe siècle, hein, c'est le seul qu'on ait canonisé, eh bien, ça a été effectivement un petit peu nouveau. Cela dit, pour être tout à fait franc, ce pape pauvre, qui est un monsieur très bien sur le plan spirituel, évidemment, s'est révélé sur le plan politique une véritable catastrophe.
Et puis, il ne faut pas seulement être pauvre, il faut paraître pauvre. Ça, ce n'est pas toujours une réussite. Ceci, 1996, déclaration d'un dirigeant de Citroën qui s'appelle Monsieur Orphelin. Il présente une voiture qui a été offerte au deuxième successeur de Pie X, j'ai nommé Pie XI en 1930.
Tout ce qui est phare, pare-choc, tous les éléments décoratifs sont en or. Cette voiture a les poignées en or également. Tout le protocole devait être respecté, c'est-à-dire que si on ouvrait la portière et qu'on voulait lui embrasser les pieds, il y avait une pédale qui permettait un petit tabouret de tourner et on pouvait lui baiser les pieds. Il n'avait pas à bouger, tout se faisait automatiquement.
Le pape ne devait pas non plus s'abaisser à parler au chauffeur. Il avait donc à sa disposition une série de boutons d'ordre, ordre que l'Esprit Saint, brodé au plafond, lui dictait sans doute. Le problème, c'est que Pie XI ne donna que très peu d'ordre à son chauffeur à cette époque-là. Le pape ne sortait guère des murs du Vatican et se déplaçait surtout en chaise gestatoire. Ce qui explique qu'il n'y ait que 158 km au compteur de la belle voiture en 66 ans.
Alors 158 km au compteur de la voiture de Pie XI, sans parler des voyages de Jean-Paul II que vous citiez tout à l'heure, 104 à l'étranger, 146 en Italie, les chiffres sont cités dans votre livre, le roman des papes, Bernard Lecomte, premier grand pape voyageur avant Jean-Paul II, après Pie XI, c'est ?
C'est Paul VI. Paul VI est le premier pape de l'histoire à prendre l'avion. Ça paraît fou comme ça. Mais en effet, ce pape élu en 63 est le premier pape qui prend l'avion. Alors il a une intuition, Paul VI, il va dans les 5 continents. Vous voyez, c'est tout de suite cette idée d'universalité précédant la mondialisation dont Jean-Paul II sera l'image. Et Paul VI va en effet dans le tiers-monde, il va à l'ONU, rappelez-vous, à New York, où il a un discours qui restera dans l'histoire.
1965, l'année précédente, le Vatican était devenu observateur à l'ONU.
Celui qui vous parle est un homme comme vous. Il est votre frère et même un des plus petits parmi vous qui représentait des États souverains, puisqu'il n'est investi que d'une minuscule et quasi symbolique souveraineté temporelle. Le minimum nécessaire pour être libre d'exercer sa mission spirituelle et assurer à tous eux qui traitent avec lui qu'il est indépendant de toute souveraineté de ce monde. Il n'a aucune puissance temporelle. Aucune ambition d'entrer avec vous en compétition.
Paul VI a cette formule qui reste aujourd'hui, qui est une très belle formule. Il dit « L'Église n'a au fond aucune compétence, mais elle est experte en humanité ». Et il est très écouté. Le discours de Paul VI à l'ONU, c'est un événement. Il y a 6000 personnes qui sont venues l'écouter à ce moment-là. C'est une véritable ébullition. De même, Paul VI est le premier pape à aller visiter la Terre Sainte. Le premier pontife à aller à Jérusalem. Et là aussi, le voyage est très mouvementé, c'est très compliqué. Bien entendu, Jérusalem, c'est toujours très compliqué. Mais enfin, on a des images, et je vous invite à retrouver, par exemple, les vieux numéros de Paris Match de cette époque. Il y a des pages et des pages et des dizaines de pages sur le voyage de Paul VI en Terre Sainte.
Un jour, on fera une marche de l'histoire sur le contentieux entre le Vatican et Israël. On peut rappeler la phrase de Jean 23 quand il était nonce, il se disputait avec un rabbin pour savoir qui allait entrer le premier dans la pièce, et finalement, c'est le rabbin qui accepte de passer le premier, parce que Roncalli, Jean 23, lui a dit d'abord l'Ancien Testament, et puis ensuite, nous, le Nouveau Testament. Mais le monde vient au Vatican aussi, sans que le Vatican ait besoin d'aller au monde.
Oui, c'est une dialectique un peu particulière, le Vatican, à cet égard. Mais on oublie toujours une chose qui est fondamentale. Le Vatican est le lieu où doivent aller tous les évêques du monde, tous les 5 ans, au tombeau des apôtres, les apôtres étant évidemment Paul et Pierre. Et ces visites ad limina permettent au pape de recevoir en permanence des nouvelles, des informations sur tout ce qui se passe dans le monde. On dit, par exemple, encore aujourd'hui, on dit Benoît XVI est un homme assez solitaire, qui n'est peut-être pas tout à fait au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas vrai du tout. Benoît XVI, comme c'était le cas de ses prédécesseurs, reçoit en permanence des évêques venus des 4 coins du monde qui lui expliquent, en effet, comment le monde tourne.
Et puis, de temps à autre, un concile est convoqué, le dernier, le 21e, c'était en 1962, par Jean 23, le pape
surprenant que vous allez entendre chanter en latin.
C'est le 11 octobre 1962. Quand le pape prend place dans Saint-Pierre, 3000 évêques, de toutes races, de toutes couleurs, venus de tous les pays du monde, sont rassemblés autour de lui. Sont là aussi des observateurs officiels de presque toutes les églises non catholiques, car le concile marque une étape importante vers l'unité des chrétiens. Minute historique et bouleversante, Jean XXIII entonne le Veni Creator et l'énorme houle des 3000 pères du concile lui répond pour implorer l'Esprit Saint.
Creator Spiritus.
On dit de Benoît XVI que vous citiez tout à l'heure qu'il est le dernier pape de l'axe Grèce-Rome, dernier pape européen, avez-vous dit dans un autre livre, Bernard Lecomte. Où en est l'internationalisation de l'Église et comment le centre de gravité change-t-il à votre sens?
Alors d'abord, le Concile, on vient de l'entendre, a été une étape déterminante à cet égard, puisqu'en effet, ces 3000 évêques, ces 3000 pères conciliaires venaient bien de toute la planète. Ça a été un phénomène tout à fait nouveau. Il y a eu quelque chose qui va au-delà du symbolique, c'est l'élection du premier pape non italien en 1978. Jean-Paul II, le Polonais, brise une tradition de 5 siècles. Et son successeur lui-même, l'actuel pape Benoît XVI, vient d'Allemagne. Et donc déjà, le côté italien de tous nos papes, là, est un petit peu battu en brèche par ce Polonais, cet Allemand. Demain, personne ne s'étonnera si le pape est argentin ou africain. Ça ne serait plus une révolution, maintenant.
Ce serait même préférable, parce que ce sont les deux centres de gravité de l'Église de demain, où il y a beaucoup de concurrence, néanmoins. Pas de monopole possible pour les catholiques sur ces deux continents.
Il y a beaucoup de concurrence, il y a la concurrence des sectes notamment, dont on sait qu'elle est vive. Mais vous avez entendu que Benoît XVI a décidé que les prochaines JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, auraient lieu à Rio de Janeiro. Ça sera un sacré événement dans 2 ans. Justement, Benoît XVI, lui, a quand même favorisé l'Europe. Donc, disons qu'il est sorti de Rome, il a désitalianisé le Vatican, mais pour en faire quelque chose de très européen. Oubliant peut-être que l'Europe, en 2030, ça sera 8% de la population mondiale.
L'histoire des papes du 19e et du 20e siècle, pardon, le roman des papes, Bernard Lecomte. Alors, à ceux qui nous reprocheraient, vous ayant entendu, votre livre est publié aux éditions du Rocher, d'être trop vaticanophile, on réserve le coup de pied de l'âne.
Ici Paris, radiodiffusion française. Émetteur d'Alouis national sur 6200 kilocycles, 11885 kilocycles et 17765 kilocycles. Veuillez écouter La France à Rome, une émission différée de Radio Vatican.
Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ. Ici Radio Vatican. Émission spéciale pour l'année sainte en relais avec la radiodiffusion française sur les ondes courtes 48 m39, 25 m32, 16 m88. La France à Rome. Bonjour, chers écouteurs.
C'est pas le coup de pied de nade, c'est ce qu'on appelle à Rome une pasquinade.
Oui, il y a toujours de l'humour à la fois à l'égard des papes, mais vous savez qu'il y a aussi de l'humour des papes. Je vous rappellerai ce pape qui était Pie IX, qui un jour se tourne vers son secrétaire, qui lui présente une très grosse dame qui venait en pèlerinage, et le pape se penche vers son secrétaire en disant « Vous voyez bien que la foi déplace des montagnes ».
La pasquinade, c'est l'œuvre aujourd'hui de Jacques Sigal, qui représente le petit peuple moqueur de Rome. Merci à vous Bernard Lecomte.
Pouf, pouf, ça sera toi qui va être le pape.
Abemus Papam, il faut le dire en latin, mieux que Coluche, France Inter est partenaire du film de Nanni Moretti qui vient de sortir. L'équipe de La Marche de l'Histoire qui a préparé cette émission, Meryl Moneghetti, Franck Olivard, Frédéric Martin, Jacques Sigal. Nous étions en partenariat aujourd'hui avec le film Abemus Papam, mais demain avec le magazine Géo Histoire qui publie un numéro sur l'occupation. Parlerons-nous du retour des Français dans leur ville et leur village en septembre 1940.